bien sûr.
Particulièrement content, bah, comme à chaque fois d'ailleurs.
En plus là, il commence à faire beau. C'est bien pour philosopher. Ouais, je voulais vous signaler aussi que demain, je reprends... je les avais arrêtés en décembre, parce que j'étais un peu fatigué à ce moment-là. Demain, je reprends les cafés philo, que je fais une fois par mois, en face, au café Le Riche. Là. Bon, alors, ce sont des... Je vous avais expliqué comment ça se passe, là. Là, je suis animateur, je distribue la parole aux personnes qui veulent s'exprimer sur un sujet donné, hein. Et puis, je rajoute parfois de l'information. Là, ce ne sont pas des cours comme ici, c'est plutôt de l'animation. Et le thème de demain, ce sera « Faut-il croire aux rumeurs ?» Sujet aussi. Et voilà, puis si le débat prend, ça vous permet de...
Ça veut bien qu'il n'y a pas de fumée.
Comment, pardon?
Ça veut bien qu'il n'y a pas de fumée.
Oui, mais voilà. Et voilà, exactement. Voilà, alors est-ce que tout le monde a une feuille? À 20h15, je voulais vous dire. Ça dure 1h15. À 20h15, et si vous voulez venir, il faut venir un petit peu avant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hein, et c'est un peu le problème, même. C'est un peu trop par rapport au débat. Comme chez les gens de venir. En même temps, moi, ça me fait plaisir. Alors, vous savez que le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les grandes représentations de l'univers et leurs conséquences philosophiques ». Alors, j'espère que sur la feuille que je vous ai distribuée, vous y voyez assez, parce que bon, c'est vrai que... Au départ, ce sont des diapositives. Alors, pour m'éviter d'avoir, comme l'autre fois, vous savez, à amener un vidéoprojecteur, c'est un peu compliqué. Les diapos, en fait, j'ai fait un copier-coller. Et voilà, et ça donne des images. De toute façon, je vais les commenter, ces images. Hein. Certaines sont assez bien lisibles, d'autres, bon, ben, voilà, alors, je suis persuadé, et puis je commence après, que ce que je vais vous dire devrait susciter beaucoup, beaucoup de questions. Alors, un conseil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, hein, de manière à ce qu'ensuite, lors de la deuxième heure, vous puissiez les poser, parce que je... Enfin, d'expérience, je doute qu'il y aura beaucoup de questions. Et oui, bien sûr. Attends, il n'y a pas vu. Alors, je voulais vous dire que la science que je vais utiliser... Voilà, donc la discipline que je vais mettre en avant à travers la réflexion philosophique proposée, c'est une discipline qui s'appelle la cosmologie. Hein, cosmologie, deux mots, hein, cosmos, l'univers, et logos, l'étude. Hein. Et la cosmologie, c'est une science qui appartient au domaine des sciences exactes, qui a des liens très étroits avec la philosophie. Je ne sais pas si vous vous souvenez le tout premier cours où j'avais mentionné la manière dont on se représente l'origine de la philosophie. Les historiens nous disent que Thalès et Pythagore sont certainement les deux premiers philosophes du VIe siècle avant Jésus-Christ. Thalès en particulier, il regardait un ciel étoilé, il s'émerveillait de la beauté du ciel étoilé, habitait en... Thalès, une cité qui s'appelait Myée, en Grande Grèce, enfin l'Asie mineure, et face à la beauté du ciel étoilé, il se posait plein de questions sur l'origine du monde, l'origine de l'homme, etc. Et il n'a pas vu devant lui un puits. Et il est tombé dans le puits. Évidemment, c'est une métaphore, hein, à la fois pour signaler que le philosophe, il a la tête dans les idées abstraites, et le puits, ça peut symboliser aussi la chute de problème en problème qu'on rencontre face à la réflexion sur le réel. Alors moi, je voulais vous dire que la cosmologie, l'histoire de la cosmologie, c'est l'histoire de diverses représentations de l'univers. Et ces représentations ont évolué. Et à chaque nouvelle représentation de l'univers, on a vu surgir des philosophies nouvelles. Autrement dit, ici, parfois c'est l'inverse, hein, mais ici c'est la science qui a été le moteur de certaines doctrines philosophiques. Il y a un lien très étroit entre science et philosophie, des disciplines qui sont nées du logos, c'est-à-dire une faculté qu'on appelle la raison. Alors moi je voulais vous dire aussi que la cosmologie n'a pu naître que si les hommes ont pu tuer l'ancêtre de la cosmologie, qui s'appelait la cosmogonie. Et là, la différence de terminologie, elle est importante. La cosmogonie, c'est l'étude de la genèse du cosmos, mais cette étude, elle se fait à travers des mythes. Alors que la cosmologie, c'est l'étude scientifique, astrophysique du cosmos, et elle prétend sortir du mythe. Hein. Donc les premières représentations de l'univers, vous l'avez compris, elles ont été données à travers des mythes. Les mythes sur l'origine de l'univers, on les trouve dans toutes les cultures, hein, chez les Égyptiens, en Inde, en Grèce. Dans toutes les cultures, vous avez un mythe des origines, on appelle ça un mythe généalogique, le mythe des origines de l'univers, qui nous donne une certaine vision de ce qu'était l'univers au départ et de son évolution. Et l'ensemble de ces mythes, on les appelle des mythes, donc je vous l'ai dit, cosmogoniques, avec un N. Ce qui est assez remarquable, c'est que lorsqu'on regarde un petit peu les points communs entre les différents mythes, on s'aperçoit qu'il y a justement des points communs. Dans le domaine de la mythologie grecque, il y a un auteur qui était, pour les Grecs, un nom vénéré et respecté autant que celui d'Homère. C'est un auteur de mythes qui s'appelle Hésiode, H-E-S-I-O-D-E. Et Hésiode a écrit deux textes très importants, enfin deux recueils de textes très importants, les théogonies, donc là ça veut dire l'origine des dieux, la généalogie des dieux, et cosmogonie, justement, origine de l'univers. Les théogonies, c'est Hésiode qui nous apprend en particulier que Chronos, c'est un dieu primordial qui tuait ses enfants, l'âge du temps, hein, qui dévore. Zeus a tué son père, enfin il y a eu une histoire, quoi. Ça c'est dans les théogonies, et dans la cosmogonie on apprend aussi que l'univers au départ avait une forme que les Grecs et que Hésiode nomment chaos. C'est H-A-O-S en grec, chaos, et le mot chaos ça signifie en grec très exactement la faille ou la béance. Le chaos en fait c'est un mot qui désignait dans la mythologie grecque le moment où l'univers n'avait pas encore de forme. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que ce que nous décrit Hésiode, c'est un état primordial dans lequel tout est mélangé. Tout est dans tout. Et le mythe nous raconte que l'univers va se mettre en ordre par deux processus. D'abord un processus de séparation. La matière va se séparer de la matière. C'est-à-dire que la mise en ordre de l'univers, c'est un processus de séparation. Tout était mélangé au départ, les éléments, la terre, l'eau, le feu, d'ailleurs on ne les appelait pas comme ça, tout était mélangé. Et du chaos va naître un ordre, mais par séparation. Et l'autre mode de production de l'univers, que nous raconte la cosmogonie, un processus non pas de séparation, ça c'est dans un temps, mais un processus généalogique. Généalogique, c'est-à-dire, vous avez des éléments qui sont enfantés par d'autres éléments. Donc là, c'est un processus d'enfantement. Par exemple, Gaïa et Uranos. Gaïa, c'est la déesse de la terre, Uranos, le ciel. Ils vont avoir des enfants, les titans. Vous avez comme ça toute une suite d'engendrements. Donc vous avez deux processus qui sont décrits par la mythologie grecque. La séparation du chaos, ou l'engendrement à partir de divinités. C'est intéressant parce que la théorie du Big Bang, bien après, hein, au XXe siècle, a été émise pour la première fois. Le premier à l'avoir émise, c'est un chanoine belge du nom de Georges Lemaître. Et ensuite, cette idée a été reprise, et d'ailleurs, elle fait partie maintenant de ce qu'on appelle le modèle standard en cosmologie. Et alors, lorsqu'on s'est représenté le Big Bang, les physiciens se sont représentés l'origine de l'univers comme une soupe primitive, hein, c'est l'expression extrêmement chaude, milliards et milliards de degrés, à partir desquels les différents éléments se sont comme séparés. Alors évidemment, ça ne légitime pas le mythe, mais pas dans le domaine du logos, mais on voit qu'il y a aussi là, l'explication scientifique, l'idée d'une séparation par rapport à un état primordial où tout était mélangé. Évidemment avec d'autres concepts, hein, puisqu'après la science, elle nous décrit la formation des atomes, la nucléosynthèse, enfin tout un processus dans le mythe, bien sûr. Voilà, alors moi je voulais vous dire que la cosmologie, pour qu'elle puisse naître et faire naître ensuite une réflexion philosophique, il a fallu qu'elle mette fin à la cosmogonie. Et les premières cosmologies sont apparues avec le développement de la rationalité grecque, et en particulier le 4e siècle, hein, vous savez que c'est le grand siècle de la philosophie, c'est le siècle de Platon et Socrate et Platon, 4e siècle, et même d'Aristote. Bon, Aristote, il est à cheval entre le 4e et le 3e. Mais voilà, on est dans le grand siècle de la raison grecque, c'est le 4e siècle. Et au IVe siècle, les Grecs se font une image de l'univers qui est très particulière, qui a inspiré toute la société, et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres cultures, hein, les connaissances circulées. Hein. Et cette image de l'univers, elle est tributaire d'un certain nombre de problèmes que les anciens devaient résoudre. D'abord, un des problèmes... alors évidemment, il n'y avait pas de télescope à leur époque, hein. Il n'y avait pas de lunettes d'astronomie. Comment savoir quelle est la forme générale de l'univers? Par rapport à cette question, il fallait résoudre le problème d'abord de savoir pourquoi les astres qu'on voyait la nuit, la Lune par exemple, hein, elle ne tombait pas dessus. Elle ne s'écrasait pas sur le... Alors vous pourriez dire, mais bah, il pense à des jeux de force, mais le concept de force tel qu'on l'utilise aujourd'hui n'est pas un concept de la science grecque. Les Grecs ne connaissent pas la force au sens où Newton la définit. Qu'est-ce qui peut empêcher un objet de nous tomber dessus? Bah, ou bien il est accroché à un fil, mais on ne voit pas de fil accroché à la Lune. Hein. Enfin, je sais pas, Ou alors c'est qu'entre l'objet qui risque de nous tomber dessus et nous, il y a quelque chose qui l'empêche. La solution qu'ont trouvé les Grecs. La cosmologie grecque, la première cosmologie grecque, la plus ancienne, considère que l'univers dans lequel nous vivons, le cosmos, est entouré d'un... Allez, disons-le, quoi. D'un dôme. Et regardez la première image. La Terre est plate, comme une crêpe, et elle est entourée d'un dôme. Et le premier cercle, le premier dôme, est placé sous la Lune. Et les anciens appelaient ce domaine le monde sublunaire. Est placé sur la Lune. Et la Lune, elle glisse sur ce dôme. Alors, de quelle matière est fait ce dôme? Aristote conjecture qu'il est fait d'une substance qui ressemblerait à du verre, un verre extrêmement solide. Certains parlent de l'éther, une matière subtile qu'on peut. Enfin, il y avait des conjectures, des spéculations sur la nature de ce dôme. Mais chaque astre a son dôme. C'est-à-dire qu'à l'époque, on connaissait l'existence de 7 planètes. On pensait qu'il y avait 7 planètes, et il y avait 7 dômes. Il y avait aussi un dôme pour le Soleil. Il glisse. On a appelé cette conception une conception concentrique, puisque finalement, vous avez un ensemble de sphères. Et l'ensemble de ces sphères, de ces dômes, c'est comme si les dômes ne bougeaient pas. Ce sont les astres qui bougent, hein, sur les dômes. On les appelait la sphère des fixes. Ce sont les dômes. Ce sont les astres qui bougent. Par conséquent, il y a autant de dômes qu'il y a d'astres. Alors ça a donné lieu à des spéculations aujourd'hui, mais il fallait se placer dans le contexte. Hein. En fonction des astronomes, certains conjecturent qu'il y a 13 dômes, 15 dômes, c'est monté jusqu'à 28 dômes. Voilà, vous savez, une suite de cercles. Moi, ça m'a toujours fait penser aux boules, vous savez, là, dans les... tourisme. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que la physique et la cosmologie de l'époque, les historiens disent qu'elle était qualitative. C'est-à-dire que la description de l'univers, ici, n'utilise pas un langage mathématique, il n'y a pas d'équation, elle utilise des qualités. Et les qualités, c'est simple, il y en a deux. Parfait, imparfait. Tout ce qui se situe sous la Lune, autrement dit, le monde sublunaire, notre monde, hein, est qualifié d'imparfait. C'est le monde de la mort, de la corruption, tout ce qui existe se corrompt, les corps biologiques finissent par mourir. C'est le monde de la guerre, c'est l'histoire humaine avec ses imperfections. C'est un domaine qui est celui de l'imperfection. Au-dessus du monde sublunaire, donc on appelait à l'époque le monde supralunaire, avec cette idée que les astres sont des êtres éternels, pas soumis à la corruption, être le soleil lui-même ont une vie éternelle, c'est le domaine, je paraphraserai presque Baudelaire ici, hein, des luxe, calme et volupté en fait. Hein. C'est l'air, il n'y a pas d'homme déjà. Voilà. Le monde parfait ira même jusqu'à être qualifié par Aristote, par exemple, dans le Décaïlo, dans le Deux Ciels, de monde divin, et le monde imparfait, soumis au devenir autre, la Genesis, soumis au changement, quoi. C'est le monde sublunaire. Vous voyez que ça, c'est une cosmologie qualitative, parce qu'on décrit le réel, non pas avec des équations ou avec des mesures, mais avec des adjectifs. Je voulais vous dire, avant de continuer la cosmologie, que à côté du mythe grec, part d'un état de chaos, hein, vous vous rappelez, chaos, tout est mélangé, une béance, mais tout est mélangé. Il y a un autre texte que je vais signaler, c'est la Bible, le livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse, lui, nous dit qu'au départ, on est dans un état, alors le mot hébreu, c'est tohu-bohu. Pourquoi est-ce qu'on ne traduit pas tohu-bohu ? C'est un concept qui ressemble beaucoup au chaos grec, hein. C'est-à-dire c'est le chaos. Là. Tout est dans tout là aussi, tohu-bohu. Et là, dans le livre de la Genèse, le processus qui est décrit, c'est aussi d'une certaine manière un processus de séparation, mais qui se fait au moyen de la parole, le logos divin, hein, la parole de Dieu, qui sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, vous connaissez le texte biblique, hein, le ciel et la terre. Il y a aussi un processus de séparation, mais contrairement au mythe grec, là, la parole créatrice, le logos divin, c'est lui qui accomplit par sa seule énonciation la mise en ordre du cosmos. Voilà, il fallait quand même que je le rappelle. Et dans les deux cas, donc la cosmologie, en tout cas dans l'Antiquité, enfin dans le mythe, hein, c'est une mise en ordre qui est présidée par la beauté, parce que cette mise en ordre, elle est harmonieuse. Pas un hasard si le mot cosmos, qui signifie l'univers, signifie aussi la beauté. Étymologie qu'on retrouve aujourd'hui dans des mots comme cosmétique. Absolument. Bien, la cosmétique est l'art de travailler sur la beauté corporelle. Voilà. Bon. Alors, regardez toujours le premier dessin, avec la Terre, le monde supralunaire, le monde sublunaire. Ça, c'est vraiment la vision la plus basique de l'univers, mais qui était largement partagée. Il y a une anecdote quand même qu'il faut que je vous raconte, c'est que donc les anciens croyaient que la Terre était plate et qu'il y avait des frontières, quoi. Au bout d'un moment, on pouvait tomber, quoi, si on arrivait jusqu'au bout. Il y a une anecdote célèbre qui nous est rapportée par Aristote. Aristote fut le précepteur d'Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, avec ses soldats, traversé de nombreux territoires. Certains territoires étaient peu ou pas connus. Aristote avait d'ailleurs demandé à Alexandre si en chemin faisant, il découvrait des espèces animales pas connues des Grecs, qu'il essaie de les capturer pour les lui rapporter. Et grâce en partie à Alexandre le Grand, d'ailleurs, Aristote a fait des classifications zoologiques inédites pour l'époque. Et on raconte que Alexandre est approché de l'Inde, devait traverser un fleuve, le fleuve de l'Indus. Là, s'il avait avec son armée franchi le fleuve, ben, il aurait été bien avant Marco Polo à la découverte de territoires qui sont découverts ou auxquels on accédera plus tard. Et là, on nous raconte que les soldats d'Alexandre le Grand, au bout, on va tomber, quoi. On est arrivé au bout de la terre. Et donc Alexandre le Grand n'a pas pu traverser le fleuve. Et il a écouté ses soldats, il a rebroussé chemin, parce qu'on croyait que la Terre était plate. Rien à vous dire, hein, que les astronomes, les grands astronomes grecs, ne croyaient pas que la Terre était plate. Un certain Ératosthène, qui avait calculé la circonférence de la Terre, il avait trouvé un chiffre avoisinant, alors évidemment je convertis, hein, à l'époque ils n'avaient pas de chiffre, qu'il avait trouvé avoisiné 40 000 km. Ben, il ne s'était pas trompé. Vous avez... Même Pythagore, on a retrouvé la grande cosmologiste française que j'ai le privilège de connaître, elle s'appelle Sylvie Vauclair, a sorti il y a 2 ans de ça un livre sur la conception pythagoricienne de l'univers, et elle a bien retrouvé des textes où Pythagore pensait que la Terre était ronde. Hein. Donc il y avait des auteurs grecs qui supputaient, qui subodoraient que la Terre était une sphère et non pas une crêpe. Mais c'est vrai que majoritairement, le peuple croyait que la Terre était crêpe, quoi, était plate, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la conception de l'univers comme un ensemble de sphères autour des dômes, elle va continuer pendant longtemps. Tout le Moyen-Âge. Là, j'étais loin. Et la figure dominante de la cosmologie du Moyen-Âge... L'auteur auquel on va se référer, c'est Aristote, mais c'est aussi Ptolémée. Ptolémée, c'est un grand astronome qui a essayé de répondre à un problème qu'aucun astronome grec n'avait réussi à résoudre. Il s'était aperçu que le mouvement des planètes dans le ciel, c'était pas un mouvement cohérent. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que les planètes, elles avaient des mouvements rétrogrades. Elles avançaient, elles reculent, elles ne comprenaient pas. Quoi. Évidemment, ils ne connaissaient pas le calcul par cumul de mouvements. Maintenant, on sait, hein, entre la rotation de la Terre autour d'elle-même, la rotation de la Terre autour du Soleil, il y a plein de choses qui tournent autour, hein, dans l'univers, et surtout dans le système solaire. C'est la combinaison des mouvements qui donne cette illusion d'astre errant. À l'époque, on ne savait pas. On ne savait même pas que les autres planètes avaient un mouvement elliptique, hein, non plus. Enfin, on voyait simplement le mouvement apparent, et le mouvement apparent donnait le sentiment que les planètes... Je tiens à vous signaler que le mot planète lui-même, l'étymologie planetum, ça veut dire ce qui erre, ce qui n'a pas un cours cohérent, ce qui est dans une espèce d'errance. Eudoxe de Cnide, qui est un auteur de l'époque, avait eu cette phrase célèbre qui a beaucoup marqué les philosophes de l'Antiquité. Il disait « Les astronomes doivent sauver les phénomènes ». Sauver les phénomènes, ça voulait dire trouver une explication à l'errance apparente des planètes. Quoi. C'est pas possible. Et là, Ptolémée sort sa théorie des épices. Une merveille de conceptualisation. Dans l'univers, écrit Ptolémée, les astres font des petites boucles. Petites boucles, il les appelle des épicycles. Alors c'est la deuxième image, on voit rien, je suis désolé. Vous voyez un petit peu là, on voit un petit peu. Voilà, les planètes avaient des mouvements comme ça. Et alors Ptolémée, lui, il introduit un formalisme, des calculs, des mesures, et pour expliquer pourquoi telle planète se trouve à tel endroit de l'année, imagine qu'elle a fait une petite boucle comme ça. Et on a dit, après coup, hein, les épistémologues ont dit que c'était une explication ad hoc. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on avait besoin de rajouter un épicycle, aller un petit peu par-ci, un petit peu par-là, ça expliquait tout. En fait, ça expliquait rien du tout. Mais le plus incroyable, et c'est ça, c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui chez les cosmologistes, c'est que la théorie des épicycles, c'est incroyable. Elle permettait de faire des prédictions justes sur certains phénomènes, comme les éclipses. Elle avait une certaine justesse, comme quoi une théorie fausse peut donner lieu à des prédictions vraies. C'est pas le premier cas, hein, mais celui-là est un exemple majeur, quoi. Aujourd'hui, quand un physicien ou un cosmologiste vous dit tu réinventes la théorie des épicycles, c'est une manière de dire ta théorie, elle est construite ad hoc. C'est-à-dire elle part pas d'une loi préalable, mais on l'invente exprès pour expliquer un phénomène. En fait, c'est une construction tout à fait empirique, quoi. Mais la théorie des épicycles de Ptolémée, hein, a dominé tout le Moyen-Âge, et il a fallu le courage d'une femme, Hipparchia. Il y a eu un film qui est sorti sur elle, hein, qui était une femme astronome, hein, qui avait conjecturé que le mouvement, d'abord que la Terre était ronde, que la Terre tournait autour du Soleil, c'est incroyable, avant Copernic, hein, et avant Galilée. Et elle avait même été jusqu'à conjecturer que la rotation des astres, en particulier de la Terre, ne formait pas une ellipse. Il est complètement révolutionnaire pour l'époque. Elle fut prise pour une espèce de diablesse, et Hipparchia fut horriblement massacrée, je dis bien massacrée, par les habitants. Alors, voilà, le nom de la cité où elle habite m'échappe là. C'est à Alexandrie. Voilà. Elle fut tuée. Un groupe d'hommes est venu en fait, elle a été démembrée, carrément. Et je vous dis, il y a un film qui a été fait sur sa vie il y a quelques années, vous l'avez peut-être vu, qui a vraiment collé à la biographie d'Hipparchia telle qu'on la connaît. Mais le premier grand astronome de l'Antiquité, enfin non, de la Renaissance, en fait, hein, elle était dans le Moyen-Âge, hein, c'est une femme. Là, en soi, c'était pour l'époque, c'est plus... femme qui avait vu juste, hein, puisque finalement ce qu'elle va dire va être retrouvé, confirmé par ceux qui vont lancer, on va dire, la cosmologie moderne, c'est Copernic et puis Galilée, bien sûr. Alors, avec ces deux auteurs, la cosmologie va faire un bond incroyable. Et qu'est-ce qui va d'abord changer? Eh bien, d'abord, on va abandonner le géocentrisme. Dans la conception antique, tout l'univers n'a qu'un centre, c'est la Terre. Et l'univers, le cosmos, est conçu comme fini. On parle du monde clos. C'est-à-dire que sous la série des dômes, ça n'a aucun sens de demander qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a rien. C'est une explication qui ne satisfaisait pas tout le monde. Vous avez des esprits chagrins qui s'étaient demandé, mais ce dôme, on doit bien pouvoir le casser. Et si on le casse et qu'on met la main, si la main, qu'est-ce qu'elle devient la main? Il y a eu des polémiques comme ça, hein, au Moyen-Âge. Hein. Il y a même une célèbre fresque dont l'auteur était Las Anonyme, où on voit un homme, elle est incroyable cette image, on voit un homme, c'est une peinture du Moyen-Âge, qui sort la main du dôme. Là, quand il sort la main, on le voit, en dehors du dôme, il y a d'autres mondes, il y a d'autres dômes, il y a d'autres univers. Au Moyen-Âge, ils avaient déjà inventé la théorie du multivers. Et à l'époque, le monde n'était pas de cet avis. Certains pensaient que si on sortait la main du dôme qui formait l'univers, la main disparaissait. Il n'y avait rien. Il y avait le néant. Parce que l'être, réel, quoi, il était dans le dôme. En dehors, c'était le néant. Et du néant, rien ne peut advenir. Quoi. Enfin, voilà, il y avait des spéculations de ce genre. Qu'est-ce qu'il y a en dehors du dôme, hein? Eh bien, avec la cosmologie qui apparaît, en fait, 1500, c'est le 16e siècle, hein, vous avez l'idée que la Terre n'est pas au centre de l'univers, que l'univers n'est pas constitué d'une série de cercles concentriques, et c'est que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. Cette conception, vous savez comment on l'a appelée? L'héliocentrisme, hein, Hélios, le Soleil. Bon, c'était une théorie fausse aussi, mais il y avait quand même un décentrement. Là, c'est le Soleil qui est entre. Il y a toujours une connotation très religieuse encore, hein, le Soleil étant l'image visible de Dieu. On l'a déjà chez Platon, dans la République de Platon, hein, de la caverne. Le Soleil est au centre, il bride ses mille feux, la Terre, elle est autour, quoi. Et cette conception, l'héliocentrisme, elle va encore avoir de beaux jours devant elle, jusqu'au moment où l'héliocentrisme lui-même va être abandonné. Alors il y a des textes du philosophe Kant qui conjecturent... Kant, c'est le 18e siècle, hein, où ces textes majeurs tournent autour des années 1570. Alors, il y a des progrès qui sont faits au niveau technique déjà. Hein, la lunette... Alors, la lunette d'astronomie aurait été découverte, enfin, ou construite, soit par Galilée, soit par un auteur hollandais. Mon nom m'échappe là. Mais en tous les cas, avec les moyens d'observation, les choses vont aller très vite après. Hein. Et puis surtout, vous avez un très très grand physicien anglais, sur lequel d'ailleurs Kant, le philosophe Kant, va s'appuyer, qui s'appelle Isaac Newton, qui lui va montrer que l'univers dans son ensemble est soumis à un jeu de force. Elle respecte une loi fondamentale qui permet de comprendre ce qu'il appelle la gravitation universelle. Pour résumer, hein, la gravitation universelle nous dit que tous les corps dans l'univers sont dotés d'une masse. Les corps dans l'univers s'attirent proportionnellement à leur masse. Ce qui veut dire qu'un corps qui a une masse plus importante qu'un autre va attirer celui qui a une masse plus petite. Phénomène d'attraction. Donc tous les corps s'attirent proportionnellement à leur masse, mais plus les corps sont éloignés les uns des autres, moins ils s'attirent. Donc proportionnellement à leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Ça donne E égale 1/2 de MV2. Bon, c'est la fameuse loi de la gravitation universelle. Là, on est dans une cosmologie qui va utiliser un formalisme mathématique, qui nous donne une loi, la loi de la gravitation, mais qui ne nous donne pas encore une image de la forme globale de l'univers. Là, on n'a pas la forme globale. Est-ce que l'univers est infini? Est-ce qu'il est fini comme le croyaient les anciens? Ça, on ne le sait pas encore. Hein. On sait que ce qui explique les mouvements, c'est la loi de la gravitation universelle. C'est déjà pas si mal. Hein. Quel est le siècle où on va avoir une image de l'univers? C'est le 20e. J'ai eu la chance, un jour j'avais trouvé chez un bouquiniste, ce qu'on appelait une astronomie populaire. Très à la mode à la fin du 19e siècle et aussi au début du 20e, une astronomie populaire, c'est un livre d'astronomie pour le peuple. Il y a un auteur qui s'était spécialisé, qui avait fait un succès d'édition, qui s'appelait Camille Flammarion. Il avait vendu une astronomie populaire, mais qui c'était un best-seller, quoi. Et il expliquait, ça passionnait les gens, l'astronomie. Hein. Il y avait un autre aussi, un certain Bruegel, hein, un astronome allemand, qui avait une astronomie populaire, qui avait eu énormément de succès outre-Rhin, quoi. Et moi c'est celle de Bruegel que j'avais trouvée. Et il disait, mais... Rappel, hein, les premières lignes, hein, donc ça datait des années 1910. Vous voyez, c'est pas possible. Que le clair était gigantesque. Il devait certainement avoir des millions de kilomètres, écrit-il. Millions de kilomètres, enfin. Sans rire, hein. Bon. Mais il s'était juste trompé de 13,680 millions milliards de kilomètres, quoi. On sait que l'univers, il n'est pas grand, il n'est pas immense, il est tellement gigantesque, pas se représenter cette énormité. Et ça, c'est au XXe siècle qu'on l'a découvert grâce à des travaux qui vont marquer l'histoire des sciences. Ce qui va apparaître, c'est le gigantisme de l'univers, 13,7 milliards d'années. C'est-à-dire que la lumière, pour aller d'un bout à l'autre de l'univers, elle met 13,7 milliards d'années. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. 13,7 milliards d'années-lumière. Absolument gigantesque. Et surtout grâce aux travaux d'un monsieur qui s'appelait Edwin Hubble. On va découvrir dans les années 30, contre toute attente, l'univers n'est pas une réalité stable, mais en expansion. Alors ça crée une stupéfaction. On le sait parce que l'observation des galaxies, alors, entre-temps, on avait découvert l'existence des galaxies. Kant avait subodoré et d'autres, hein, ils avaient appelé les galaxies des univers-îles. Mais les galaxies sont attestées au XXe siècle, et on s'aperçoit, au XIXe, hein, on les connaissait déjà au XIXe, puisque le premier catalogue des galaxies, c'est le catalogue Messier. C'est pour ça que certaines galaxies portent comme nom un M suivi d'un chiffre. Par exemple, la galaxie M203, en fait, c'est la galaxie du catalogue Messier. Après, il y a eu un nouveau catalogue général, NGC, et vous avez d'autres galaxies qui s'appellent NGC 240, bref. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse proche de la lumière. Pourquoi est-ce qu'elles s'éloignent? Qu'est-ce qui fait que des objets s'éloignent les uns des autres? L'hypothèse qui a été formulée, c'est qu'il y a dû avoir au départ explosion. Cette explosion, certains détracteurs de cette théorie, pour se moquer d'elle, avaient utilisé le mot Big Bang. Mais sachez qu'au départ, l'expression Big Bang, c'est une expression moqueuse, c'était pour se moquer. Et en fait, les tenants de cette théorie ont repris le mot Big Bang, en français c'est gros boom, quoi, qui est resté. Et cette théorie dit qu'il y a eu une fantastique explosion, et que c'est de cette explosion que sont nées dans les différentes galaxies et l'explication de l'univers en expansion. Alors je ne voudrais pas trop entrer dans les détails parce que ça nous mènerait trop loin, mais sachez que l'idée d'une explosion originelle, c'est une image, hein, parce qu'elle est extrêmement compliquée. Pour qu'il y ait explosion, au sens où nous on l'entend dans le monde phénoménal, hein, il faut qu'il y ait déjà de l'espace. L'explosion, ça suppose déjà qu'il y ait de l'espace et du temps. Pour les physiciens, le Big Bang, c'est la création de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'en fait, le Big Bang est créateur de l'univers. L'univers, on se le représente comme un ballon, comme une sphère, qui enfle. Mais l'espace et le temps n'existent pas. C'est le Big Bang qui crée l'espace et le temps. C'était compliqué, hein, à comprendre ça. C'est-à-dire que le Big Bang est créateur. Donc voilà, on a une conception de la cosmologie, enfin de l'univers, qui n'est jamais eu avant, qui n'est non pas statique, mais dynamique. C'est-à-dire que notre réalité n'est pas quelque chose qui est une donnée, qui préexiste, hein, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est en perpétuelle construction, si on peut dire. Alors, je vous ai mis sur la feuille que je vous ai distribuée La troisième image, ça c'est une image, là aussi on ne la voit pas très bien. Surtout il faudrait la voir en couleur, quoi. Bon. Cette image, elle a été rendue publique par la NASA, début des années 2000. Il s'agit, alors vous voyez pas grand chose, hein, mais sur la photo d'origine on voit des points verts et d'autres bleus foncés. Cette image-là, c'est l'image la plus ancienne d'avoir de l'univers. Elle a été prise par la sonde WMAP, parce que ce que vous ne savez pas, enfin peut-être pas, c'est que l'univers, on ne peut pas en avoir une image plus jeune que l'univers 300 000 ans après le Big Bang. C'est-à-dire qu'entre le moment du Big Bang, 300 000 ans après le Big Bang, on ne peut pas avoir d'image de l'univers, parce que ce qui transporte à nos yeux les images, c'est-à-dire les photons, n'était pas découplé de la matière. C'est-à-dire que les photons ne transportaient pas d'informations. Ils ont commencé à se séparer de la matière et à pouvoir transmettre de l'information que temps zéro plus 300 000 années après le Big Bang. Et cette image-là, vous savez que j'étais à Toulouse, mes amis cosmologistes me disent cette image-là, c'est comme l'image d'un bébé dans son berceau, quoi. Il n'y a pas d'image plus ancienne possible de l'univers, parce qu'avant, la lumière ne transmettait pas d'informations. Ceci dit, même si cette image nous occulte les 300 000 premières années de l'histoire de l'univers, par les calculs, par contre, on peut reconstituer l'histoire de l'univers jusqu'au temps zéro, à ceci près qu'on ne peut pas remonter au-delà de 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. Très très court. Mais 10 puissance moins 3, moins 43 secondes avant le Big Bang, nos mathématiques n'ont plus de sens. Les équations s'effondrent parce que l'univers était tellement dense, tellement chaud, qu'on ne peut plus rien reconstituer. Alors les cosmologistes disent de manière, je trouve, très élégante que ce tout petit laps de temps, quoi, c'est des milliardièmes de secondes où on ne peut rien savoir sur le comportement phénoménal de l'univers, c'est un petit peu comme si la création nous avait voilé, avait mis un voile sur ses premiers instants. Regardez l'image 4, là aussi elle est toute petite, hein, mais au moment où le Big Bang démarre, si je puis dire, les cosmologistes parlent d'inflation cosmique. La théorie de l'inflation qui a été largement confirmée, qui consiste à dire que de manière brutale, la température de l'univers, la soupe originelle qui était très très chaude, hein, a chuté. En fait, vous avez un ensemble de paramètres très précis, au millimètre près, hein, si je puis dire, hein, des paramètres liés à la baisse de la température, à l'expansion de l'univers, qui ont fait que la vie a pu éclore. Enfin, l'univers a pu s'allumer déjà, avant de parler de la vie, hein. Si un seul de ces paramètres n'avait pas été là, notre univers ne se serait pas mis en expansion. Il y aurait eu l'apparition d'aucun atome, aucune substance après. Et ces paramètres concernent la température du fond diffus cosmologique, la vitesse de la lumière. Après, ça rend la chose un peu plus compliquée, hein, mais la nature de des interactions fondamentales, hein, force nucléaire forte et faible. Sachez qu'il fallait un certain nombre de paramètres mathématiques et physiques pour que l'univers s'allume. Et nous, on les avait tous. Ce qui a fait dire à des cosmologistes prestigieux que notre univers, c'était peut-être un univers jackpot. Prenez l'idée. Certains ont émis l'hypothèse qu'il existe d'autres univers, mais qui n'avaient pas les bons paramètres. Ils n'avaient pas tous, quoi. Ils avaient peut-être la bonne vitesse de la lumière, mais ils n'avaient peut-être pas la bonne densité de la force nucléaire forte ou faible. Et eux, ils ne se sont pas allumés, quoi. C'est comme si, sur une machine à sous, ils avaient eu que les 2-7. Nous, on a eu les 10-7. Tous. Et là, miracle, l'univers s'est allumé. Nucléosynthèse, les deux éléments de base au départ, c'était l'hélium et l'hydrogène. C'était les deux substances premières. Et puis après, par nucléosynthèse, vous avez eu d'autres éléments qui sont apparus. Tous les éléments chimiques de la table de Mendeleïev, vous savez. certains esprits chagrins. Alors ceux-là, ils sont tapés du doigt. Ils disent, mais non, mais l'univers, c'est pas une machine à sous, arrêtez. S'il y a tous les éléments, là, autant de coïncidences, parce que c'est vraiment au millimètre. Hein. Si la vitesse de la lumière avait été à... un tout petit peu moins, il y avait plus... Ça marchait pas. Certains disent, mais non, c'est pas le hasard, hein, c'est pas l'appel Dieu, je sais pas où ils ont été chercher ce nom-là. Mais alors ceux-là, ils se sont tapés sur les doigts. Hein. Donc voilà, voilà. Donc vous voyez, il y a même aujourd'hui des cosmologistes qui disent que l'étude de la formation de l'univers soit rend raison au hasard, soit rend raison à un être appelé Dieu, c'est-à-dire à un dessein intelligent. Ceux qui. C'est le cas, on croit en un Dieu. Il y en a un des deux qui s'appelle le dieu hasard. On a beaucoup parlé du dieu hasard. Hein. Mais là, qui nous amène vers la métaphysique. Alors, je tenais à vous dire que, autour des années 2000, notre conception de l'univers a deux gros chocs qui ont donné des vertiges à tous les cosmologistes. Hein. D'abord, on a confirmé l'idée que on pensait que l'univers était en expansion, à un moment donné, allait ralentir son expansion. On allait pouvoir trouver les calculs. Vous savez, quand il y a une explosion, les forces de Newton, les forces de gravitation, elles finissent par gagner sur les forces d'expansion. Les forces de Newton, qu'est-ce qu'elles ont comme effet? Elles font que tous les corps s'attirent. Vous vous rappelez, proportionnellement à leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Au bout d'un moment, on pensait que l'univers allait ralentir, puis sous l'effet des forces de la gravitation, l'univers qui s'était daté allait se replier sur lui, se contracter. Les cosmologistes, enfin certains, ont même appelé le processus le Big Crunch, comme le chocolat, hein. c'est-à-dire le grand effondrement. Et ils étaient assez confiants dans leur modèle. Quoi. Donc c'était beau, c'est une idée stoïcienne ça, l'univers, inspiration, enfin expansion, rétractation, ou, voilà, comme une espèce d'inspiration-expiration. Quoi, inspire. Et là, patatras. Vous savez que le mai 90, le télescope spatial Hubble avait été lancé et il nous a donné des données extrêmement précises. Quoi. Bon, au début, il avait un problème avec son miroir, enfin, ils ont changé. Bon. Et là, il est apparu des problèmes très très bizarres en cosmologie. Là aussi, je ne peux pas entrer dans le détail, mais c'était passionnant à suivre. Hein. D'abord, on s'est aperçu que, grâce à Hubble, on avait observé des étoiles dont l'âge est plus ancien que l'âge de l'univers. C'est bizarre, ça. C'est-à-dire qu'on trouvait des étoiles qui étaient plus vieilles que l'univers. L'univers, 13,7 milliards d'années d'existence, vous avez des étoiles plus vieilles. Ça ne va pas. On sait que les galaxies s'éloignent parce qu'elles ont un effet Doppler. Un effet Doppler, c'est-à-dire que galaxies elles prennent une teinte rouge à l'observation, enfin c'est pas l'observation en fait, c'est la spectrographie, hein. Les spectres des étoiles décomposent leur lumière et vous aviez des galaxies qui n'étaient pas là où elles devaient être. En fait, on s'est aperçu d'une chose, non seulement l'univers était toujours en expansion, mais que son expansion accélérait, c'est-à-dire que l'expansion des galaxies, là où il aurait dû soit ralentir ou au moins rester le même, quoi, ben ça s'accélérait. Comme s'il y avait une force répulsive. C'est-à-dire quelque chose qui attirait les galaxies à s'éloigner les unes des autres encore plus. Non, mais ça, une expansion liée à une énergie nouvelle et mystérieuse. Et comme on ne savait rien sur cette énergie nouvelle et mystérieuse, on l'a appelée l'énergie noire. L'énergie noire, c'est un concept qui a été inventé ad hoc pour la circonstance. Certains ont dit, ça y est, on ressort la théorie des épicycles de Ptolémée. Personnellement connu des gens très importants à Toulouse qui ont travaillé sur cette énergie noire. Les proches amis, il s'appelle Alain Blanchard, je peux le citer, hein, il travaille à l'IRAP, c'est l'Institut de Planétologie de Toulouse. Hein. Lui, c'était un des opposants à la théorie de l'énergie noire. Et il avait dit à tous ses collègues, si jamais c'est confirmé, je mange mon chapeau. Vous savez quoi? Il a mangé son chapeau. Je me rappelle, le jour où il a mangé son chapeau, c'était un grand moment d'ailleurs. On l'a tout soutenu, quoi. Là, il s'était trompé, quoi. Il l'a reconnu après. Hein. C'est un des pontes de l'astrophysique à Toulouse. Bon, voilà. Et le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'est cette énergie noire et comment elle pouvait expliquer que les galaxies, les unes les autres, augmente leur expansion et leur éloignement. Mais si on suit ce modèle, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le modèle standard, hein, l'univers va être de plus en plus froid et le vide va être de plus en plus grand. Puisque en s'éloignant les unes des autres, hein, les galaxies créent entre elles plus d'espace vide. Et par conséquent, c'est un peu comme si le néant gagnait sur l'être. Vous comprenez l'idée ? C'est-à-dire le froid et le vide sur le plein et le chaud, quoi. C'est quand même une vision plutôt pessimiste, quoi. Quand les choses se rapprochent, ça crée du plein. Quand elles s'éloignent, ça crée du vide. La expansion des galaxies qui s'éloignent, ça crée du vide. Pourquoi ? On ne sait pas. Pourquoi elles s'éloignent ? On ne sait pas. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point. C'est qu'on s'est aperçu, et moi je dirais que c'est encore plus dérangeant que le premier. C'est qu'on s'est aperçu que, d'après les lois de Newton, qui marche, puisqu'on peut prévoir grâce aux lois de Newton le cours des planètes, la rotation de la Terre autour du Soleil, etc. D'après les lois de Newton, on doit savoir la position des planètes ou des astres, y compris des galaxies, hein, qu'on étudie. Et là, quand on étudie l'univers, les portions de l'univers qui sont soumises à l'observation, on aperçoit qu'il manque 99% de la matière qui devrait y être. 99%. C'est le problème de la masse manquante. C'est beaucoup, quoi. Beaucoup. Alors regardez la dernière image que je vous ai mise. C'est une image très récente, hein, qui montre quelle est la composition actuelle de l'univers pour la science. La matière dans l'univers est à 70% pas de la matière. C'est de l'énergie noire. C'est-à-dire une énergie répulsive pour laquelle on ne sait strictement rien. Aucun moyen de l'étudier. Pour l'instant, 70% de l'univers est composé d'énergie noire. Donc de l'énergie, c'est pas de la matière. Hein. 25% de l'univers est composé de ce qu'on appelle la matière noire. Alors qu'est-ce que c'est que la matière noire ? C'est de la matière, mais qui est invisible à nos yeux. Mais vous allez me dire, alors comment est-ce qu'on sait qu'elle existe si elle est invisible ? Comment est-ce qu'on sait qu'elle existe ? Eh bien, la matière noire a une interaction de type gravitationnel avec la matière visible qu'on appelle la matière baryonique. La matière visible, on l'appelle la matière des baryons. Autrement dit, on sait où se trouve dans l'univers la matière noire, mais on ne peut pas la voir. On la détecte par effet gravitationnel. Effet gravitationnel, c'est très simple. La gravitation, hein, je vous le rappelle, c'est un processus en fait, que des corps s'attirent. Il peut y avoir des effets, en fait, attractifs ou répulsifs. Hein. Mais dès qu'il y a de la répulsion ou de l'attraction, on sait qu'il y a quelque chose. Quoi. Voilà. Et là, la matière noire, il y a même eu, par la NASA, une carte. J'ai pas eu la place de vous la mettre, cette carte, elle est incroyable. Une carte de la matière noire, une portion de 7 milliards d'années-lumière dans l'univers. On voit d'immenses blocs, un peu comme, moi ça me fait penser à des blocs de glace dans la mer, enfin, d'immenses blocs de matière noire, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais on sait que la matière est là. Alors, de quoi est composée cette matière ? Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas ? Pourquoi, malgré tout, elle a une interaction gravitationnelle avec nous ? Ça fait partie des grandes questions de la science d'aujourd'hui et de demain. Hein. On sait un peu plus de choses sur la matière noire, me disent mes amis de Toulouse, que sur l'énergie noire. Hein. L'énergie noire, là, c'est le noir complet. Mais la matière noire, à partir du moment où on commence à la cartographier, commence, quoi ? On commence à avoir un petit peu prise. Alors, la matière noire n'est pas à. Je tiens à le préciser, avec l'antimatière. L'antimatière, c'est de la matière visible, on peut la voir, l'antimatière, mais les charges électriques de l'atome sont inversées. Vous savez qu'un atome, on le représente comme ça, hein, c'est une représentation, comme un système planétaire en miniature. Vous savez, il y a le proton, le neutron, l'électron qui tourne autour, ils ont des charges électriques. L'antimatière, c'est de la matière électriquement inverse. C'est pour ça que si un atome de matière rencontre un atome d'antimatière, ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça explose, quoi. Enfin, il s'annule, quoi. Voilà. Mais l'antimatière fait partie du monde du visible, alors que la matière noire, elle n'est pas perceptible par les sens. Donc, vous voyez, 25% de matière noire, 70% d'énergie noire, le reste, 4% de gaz, vous savez que ce qu'on appelle les nébuleuses, hein, sont composées principalement de gaz, hein. Les étoiles et les planètes, c'est simplement 0,5% de l'univers visible. C'est-à-dire, c'est ridicule. Après, les neutrinos, la lumière, hein, c'est encore tout petit. Mais autrement dit, quand on pense à l'univers, au cosmos, on s'imagine les étoiles, les planètes, hein, vous êtes d'accord? Ça, les étoiles et les planètes, c'est 0,5% de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a 99,5% de l'univers qu'on ne connaît pas. Et avec ça, beaucoup disent, mais comment vous voulez vous faire de la cosmologie? La cosmologie nous a juste appris quelque chose. C'est qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Bon, là, j'outre un peu, mais enfin... Vous allez me dire, le fait de connaître son ignorance, c'est déjà important, quoi. Donc voilà, donc la cosmologie ouvre vers de grands défis. Et je vais arrêter là en vous disant que c'est avec impatience que j'attends maintenant vos questions. Voilà, merci.